Frédéric Lenoir, l'écrivain, philosophe à succès et auteur du Petit traité de vie intérieure, nous explique comment faire de sa vie un art. Evelyne Tonelli l'a rencontré en amont d'une conférence organisée en Principauté de Monaco le 31 mai 2011.
Frédéric Lenoir, vous dites « exister est un fait, vivre est un art ». Est-ce qu'il faut du talent pour vivre ?
Il faut en tout cas apprendre à vivre. Et je pense qu'on a plus ou moins de talent. Vous avez raison, il y a des gens qui sont assez doués pour vivre. Il y a des gens qui sont moins et pour qui un apprentissage est vraiment utile pour comprendre comment gérer finalement nos conflits intérieurs, les contradictions que nous avons, comment faire face à l'adversité, à la souffrance, à l'angoisse de mort. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à gérer dans la vie. Et puis, il y a des choses qui s'apprennent par l'éducation, il y a des choses qui s'apprennent par l'école, il y a des choses qu'on apprend nulle part, qui sont pourtant pour moi les plus importantes, c'est-à-dire la vie intérieure, comment gérer justement notre vie intérieure. Et puis, vous avez raison, il y a des gens qui ont plus ou moins de talent pour le faire. Et puis pour d'autres, j'ai écrit ce petit traité de vie intérieure qui peut apprendre un certain nombre de clés de sagesse universelle qui ont été transmises par des penseurs, des philosophes, des spirituels, des mystiques. Et c'est cette expérience-là que j'avais envie de transmettre.
Votre petit traité de vie intérieure, qui est paru en novembre 2010, a été vendu à plus de 140 000 exemplaires.
On est à 170 000 aujourd'hui, puisque c'est un livre qui a un très très fort succès par le bouche à oreille, puisqu'il y a beaucoup de gens qui, après l'avoir lu, ont envie de l'offrir. Donc c'est un livre qui continue d'être dans les listes de best-sellers depuis plus de 6 mois et j'en suis vraiment très heureux parce que c'est un livre qui est fait pour aider à vivre et je crois qu'il atteint son objectif.
Alors c'est intéressant, on a l'impression qu'on est dans une société très matérialiste, que les gens ont des tas de préoccupations bien autres que de gérer leur vie intérieure et en fait non, ils se posent les bonnes questions.
Ça n'empêche pas, j'ai envie de dire, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans une société où la priorité de l'écrasante majorité des gens, c'est effectivement l'argent, la réussite, les problèmes matériels. Et en même temps, beaucoup de gens qui sont dans cette préoccupation-là se rendent compte que ce n'est pas suffisant pour être heureux et pour faire face aux défis les plus importants de l'existence, comment être en paix avec soi-même, avec les autres, avoir une meilleure relation avec le monde, avec autrui, comment gérer sa vie. Et lorsqu'on est confronté à des difficultés, à des obstacles, à des souffrances, au deuil de quelqu'un dont on est proche, on s'aperçoit que l'argent ne fait pas le bonheur et qu'on a besoin d'autres choses pour savoir comment réagir de manière juste. Alors finalement, je trouve ça très rassurant de voir que beaucoup plus de gens qu'on imagine se préoccupent de la vie intérieure, se préoccupent du sens de l'existence, même s'il est vrai, ça change rien sur l'essentiel, que la préoccupation du confort matériel reste la première préoccupation des gens. Mais il n'y a pas que ça, et on se rend compte d'ailleurs dans tous les sondages d'opinion que ce que font passer les gens comme valeur au-dessus de tout, c'est l'amour et c'est la famille.
Alors pour vous, c'est le fruit de 30 années de recherche et votre réflexion est éclairée, entre autres, par le Bouddha, Confucius, Socrate, Jésus, Montaigne, Spinoza et j'en passe. Quel est le message que vous allez pouvoir faire passer? Quelles sont les clés en quelque sorte?
Dans mon livre, il y a une vingtaine de chapitres qui correspondent chacune à une clé. C'est très varié. Ça peut être de dire oui à la vie, à développer l'humour, le sens de la beauté, savoir lâcher prise, apprendre à s'intérioriser, se connaître soi-même, apprendre à s'aimer. Donc je reprends toute une série, si vous voulez, de thèmes très universels qui sont connus, sauf que l'originalité de mon approche, c'est à la fois de mêler la philosophie, la spiritualité et la psychologie. Et ça n'avait jamais été fait. C'est-à-dire que moi, je me suis intéressé toujours à ces trois dimensions. Et donc, c'est pour ça que je peux, sur un même sujet, si on prend l'amour, par exemple, ou l'amitié, je peux à la fois citer la pensée de Jésus, que celle d'Aristote, que celle de Spinoza, et donc que celle de Jung ou de Freud. Et je montre comment il y a une convergence très étonnante de point de vue sur ces grands sujets. L'autre originalité de mon approche, c'est finalement de partager mon expérience. Parce que je trouve qu'il était très difficile de parler de ces sujets-là qui sont très existentiels sans dire comment moi j'ai vécu ça. Quand je parle de la souffrance ou de l'échec, ne pas parler de ce que j'ai moi-même vécu comme souffrance ou dépassé comme échec, c'était impossible puisque ça aurait été une sorte de traité théorique, moral, alors que là j'ai voulu faire vraiment un livre qui aide à vivre et donc c'était indispensable de partager ma propre expérience.
Vous souhaitez que les gens s'identifient en quelque sorte à vous.
Exactement. Je souhaite que chacun puisse voir que ça fait écho à sa propre vie. Et donc j'ai fait écho à ma propre vie. Du coup, ça libère, si vous voulez, le lecteur. Ça lui permet de sentir que je ne donne pas un cours général surplombant, mais que moi-même, je suis partie prenante de la vie avec tous ses hauts, ses bas, ses joies, ses souffrances. et finalement, je suis concerné comme lui par le sujet.
Est-ce que ce qui ne nous manque pas le plus aujourd'hui, c'est la spiritualité ?
Je dirais que la philosophie nous manque tout autant. La philosophie, c'est la raison. On a besoin de raison, on a besoin de sagesse. On est dans un monde finalement assez irrationnel, bien qu'il soit très matérialiste. Et je pense que la philosophie nous aide beaucoup à discerner. Mais c'est vrai que la spiritualité, c'est elle qui va donner un sens ultime à notre vie. C'est donc une capacité, finalement, de trouver un sens à son existence. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend par spiritualité ? Ce n'est pas la religion pour moi. La religion va nous donner un certain nombre de clés, va nous donner un certain nombre de, je dirais, de certitudes, de principes, de croyances, mais elles sont souvent liées à une révélation, à un texte sacré auquel on peut adhérer ou ne pas adhérer. Et donc la religion, elle relie les individus entre eux par une croyance commune, pour le meilleur et pour le pire, parce que le pire, c'est toutes les guerres et les conflits et la violence sécrétée au nom de l'intolérance à cause justement de tous ces dogmes religieux. Alors que la spiritualité, elle est personnelle, elle n'est pas collective. La religion relie les individus, la spiritualité les délie, c'est-à-dire les libère de tous les liens, les a priori, les liens inconscients, toute notre ignorance, pour finalement nous faire un chemin individuel, on pourrait dire en termes jungiens, un processus d'individuation, ce qui nous permet de nous connaître nous-mêmes. Et une fois qu'on se connaît soi-même, on est beaucoup plus libre, et donc on peut donner du sens à sa vie en étant enraciné dans une connaissance véritable de soi. Et donc la spiritualité, c'est un chemin personnel, spirituel, dans le sens de l'esprit, qui nous permet d'aller jusqu'au bout, finalement, de la connaissance de nous-mêmes et des autres. Et donc c'est vraiment, pour moi, effectivement, le sommet de la vie intérieure.
J'en reviens au thème de votre conférence, « Vivre est un art ». Nous sommes tous des artistes potentiels et de talent en puissance.
Oui, c'est Nietzsche qui le dit, hein, « Devenez le créateur de votre propre vie ». Et je pense qu'on est tous des artistes, c'est-à-dire qu'on a tous à sculpter, à modeler notre être. Finalement, c'est vrai qu'on peut avoir des talents artistiques plus ou moins variés, certains n'en ont pas du tout, mais on a tous, je pense, à réaliser notre vie, à en faire une œuvre d'art. Ça ne veut pas dire qu'elle sera forcément sublime dans tous les domaines, mais ça veut dire qu'on a à apprendre à réagir de la manière la plus juste qui soit par rapport aux différentes circonstances de la vie. Et si on est, par exemple, quelqu'un qui a un tempérament extrêmement peureux ou colérique, on peut travailler sur ça. Et au terme de notre vie, on peut apprendre à avoir vaincu la peur. On peut passer de la peur à l'amour et de la colère à la douceur. Et ça, c'est un travail formidable. C'est une très belle œuvre d'art qu'on peut tous faire à un niveau ou à un autre.
Donc c'est un message très positif. Tout le monde,
oui,
quelle que soit la situation aujourd'hui, psychologique, de détresse, et quel que soit le niveau aussi de culture, parce que vous parlez beaucoup de philosophie, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vraiment les bases. C'est à la portée de tout le monde, le message que vous apportez.
Les bases, je les apporte. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un livre très simple à lire, puisque j'apporte les bases de culture philosophique, même psychologique et spirituelle, pour des gens qui n'ont pas forcément étudié tout ça. Et donc, c'est ça que je pense qui fait le succès du livre, c'est son accessibilité, c'est que des gens qui pensaient que la philosophie était réservée à des élites, pas du tout. En fait, les penseurs et les sages nous apprennent à vivre à travers des expériences très simples et très universelles que j'essaie de transmettre avec la même simplicité, les ayant évidemment un peu digérées. Donc, ça me permet de donner un message que tout le monde peut écouter sans avoir fait d'études, et c'est pour ça que j'écris ce livre.